Que Dieu nous aide à partager des trésors intéressants et actuels. Donc, on appelle ça des cours. Enfin, si on dit intervention, ça fait un peu chirurgical. Alors, je ne sais pas si intervention est un très bon mot. Communication. Ah oui, voilà, audition. Oui, ça, oui. Communication, ça fait très Collège de France, c'est pas mal aussi. Enfin, bref, pour cette troisième soirée, on appelle ça des soirées théologiques. D'abord, je salue les personnes qui sont ici présentes. J'apprécie beaucoup qu'il y ait des personnes physiquement, corporellement visibles. C'est quand même très agréable. La virtualité, c'est bien, mais l'actualité, c'est mieux. Mais je salue les personnes qui sont virtuellement présentes et qui ont le courage de se connecter, de faire le choix de suivre cette émission plutôt que de regarder la télévision. Je ne sais pas s'il y a un match de foot ou de rugby ce soir, mais ce serait évidemment une concurrence difficile à soutenir. Donc je n'ai pas regardé le programme de télévision. J'espère que je ne me suis pas en porte-à-faux par rapport aux émissions nationales. Donc merci vraiment beaucoup à tous. Et surtout merci d'étudier. C'est pas pour moi, hein, c'est pas un problème personnel, bien entendu. Mais le fait que vous soyez quelques-uns à vous engager dans l'étude de la tradition orthodoxe, et quelques-uns à donner de votre temps et du meilleur de vous-même pour pas seulement essayer de comprendre, mais essayer d'assimiler, de vous approprier l'héritage des saints-pères, ça c'est quand même remarquable et c'est extraordinairement important pour notre époque. Hein, nous ne pouvons plus, au 21e siècle, bientôt au 22e, parce que le temps passe, je pense qu'on va vers le 22e, on est dans le 21e, donc on ne peut pas être chrétien quand même dans le monde contemporain sans être capable de rendre compte de sa foi. Ce n'est pas forcément au sens occidental, par exemple, expliquer tout, argumenter avec des idées rationnelles, c'est pas exactement ça. Mais du point de vue orthodoxe, c'est le fait de pouvoir, dire, glorifier, confesser et témoigner de la foi, de cette réalité de l'action de Dieu dans son monde. Et de la réalité de la révélation, qui est un phénomène tout à fait extraordinaire. Le fait que Dieu se révèle, c'est absolument extraordinaire. On ne s'émerveille pas assez de ça, que la divinité puisse se dévoiler à l'être humain. Personnellement, je trouve ça absolument fantastique. C'est un événement, c'est un phénomène objectif qu'on peut nier, comme tous les phénomènes objectifs peuvent être niés, c'est pas un problème. On peut aussi nier que le soleil brille. Il y aura toujours des gens pour nous dire qu'il neige alors qu'il pleut, ou qu'il fait jour alors qu'il fait nuit. C'est pas un problème. Mais la révélation est un événement qui n'est pas de caractère psychologique, qui n'est pas de caractère culturel seulement, bien qu'il ait des proportions culturelles et psychologiques importantes. C'est un événement, c'est quelque chose qui structure l'histoire humaine et qui nous remplit d'émerveillement. Alors les autres rencontres théologiques que nous avons eues ont été consacrées, la première donc à une présentation de la théologie suivant notre façon à nous de fonctionner, les orthodoxes, qui est un peu particulière, il faut le reconnaître. Ensuite, la séance suivante, ça a été une présentation de la terminologie qui est liée au mot « dogme ». Et donc ça a consisté beaucoup à réévaluer le concept de dogme. Je pense que j'ai fait ce que j'ai pu, c'est certainement pas complet, mais j'ai fait ce que j'ai pu pour donc pas seulement réconcilier nos contemporains avec le concept de dogme, mais simplement essayer de dévoiler ce que veut dire le mot, tout simplement, et de soutenir la relation très forte que le mot dogme a avec le mot doxa, en grec, qui veut dire louange et glorification. Donc je crois que tout le monde a bien compris l'intérêt, je crois, quand même, de cette présentation. Voilà. Et puis, donc, étant donné que j'ai choisi de faire une présentation différente chaque fois, parce que l'intervalle est trop grand entre les séances pour qu'on puisse continuer. Je crois que c'est plus pédagogique d'avoir un sujet différent chaque fois. Et donc aujourd'hui, je l'avais annoncé, et donc je suis fidèle à ce que j'avais dit, et donc je voudrais présenter ce qui est la terminologie liée au terme de kérigme, alors qui est un mot beaucoup moins connu et donc beaucoup moins mal vu que le mot dogme. Et il est pratiquement inoffensif, ce terme-là, puisque personne, au fond, d'entre vous, ne l'utilise. Donc c'est un mot qui n'est pas abîmé. Il n'est pas abîmé, il a beaucoup de chance, ce mot-là. Donc voilà un mot. Et c'est un mot, vous allez voir, enfin, j'espère pouvoir vous montrer que c'est un terme extrêmement important, et il est lié, bien sûr, au terme de dogme. J'avais annoncé, il y a longtemps, quand nous avons fait la présentation des cours qui devraient avoir lieu, nous avions annoncé justement que nous parlerions de dogme et kérigme chez les pères, enfin, principalement les pères cappadociens qui jouissent de toute notre préférence et de toute notre affection filiale. Voilà, et donc c'est bien de pouvoir parler de ces mots-là en les situant, je dirais, dans le temps liturgique dans lequel on est. Moi, personnellement, je suis très sensible au fait que quand on dit quelque chose, quand on parle, c'est toujours à un certain moment de la vie de l'Église. Et aujourd'hui, nous sommes entre la fête de Saint-Nicolas, le Saint-Père pontife Nicolas, archevêque de Myre en Lycie, de Thaumaturge, et la mémoire d'un très grand père de l'Église également, qui est Saint-Ambroise de Milan, et que nous fêtons donc le 7 décembre, qui est un très grand personnage. Je ne sais pas du tout s'il était grand par la taille, je ne sais pas combien il mesurait, je ne peux pas vous le dire, mais il a été grand parce qu'il a intégré dans sa vie et dans son témoignage, avec beaucoup de courage d'ailleurs, c'est un évêque extrêmement courageux, il était archevêque de Milan, et il a intégré la tradition patristique telle qu'il la recevait à son époque, c'est-à-dire à l'époque du deuxième concile œcuménique. Et l'intérêt particulier de ce personnage, c'est que c'est quelqu'un qui s'est exprimé en langue latine. Et donc ça permet de magnifier l'idée que la tradition orthodoxe, la tradition patristique, ce n'est pas une réalité qui se réduit à une certaine orientalité, mais que c'est une réalité universelle, qui est le patrimoine général, commun, plénier, catholique au sens propre du mot, de la tradition chrétienne. Voilà, donc nous-mêmes, la parole entre nous, je pense que nous soyons connectés ou déconnectés, que nous soyons présents, nous sommes, je pense, conscients de ça, que nous sommes les porteurs, pas seulement gardiens au sens un peu frileux du mot, mais porteurs et transmetteurs, modestement, humblement, d'un patrimoine qui est universel, qui ne se réduit absolument pas donc à la partie droite de l'Empire romain. Voilà. Et donc entre ces deux saints, il y a nous, les petits saints que nous sommes, pour aborder ce terme. Alors, donc en fait, moi je veux me livrer à une explication de mots, c'est ce qu'on peut faire de plus utile finalement. Et donc si ceux qui parmi vous écrivent le grec connaissent le grec, vont être bien entendu privilégiés, auront des points en plus, parce qu'ils sont des très bons élèves de ceux qui étudient le grec. Hein. Et donc le terme kérigme, en grec c'est kérigma, vous l'écrivez en français K-E-R-Y-G-M-E. Imaginez que j'ai derrière moi un tableau noir ou un tableau blanc sur lequel j'écris les mots, et si je l'écris en grec, c'est kappa, yita, rho, ypsilon, gamma, mi et alpha. Et en grec, on prononce kérigma, et non pas kérigma, qui n'est pas très joli, kérigma, qui est la prononciation vivante du grec. Alors, ce terme-là, donc, qui est le mot kérigme, qu'est-ce qu'il veut dire, à quoi est-ce qu'il sert, etc. Eh bien, on va le prendre, si vous voulez, dans son histoire bon, sémantique, si vous voulez. Alors, sémantique, ça fait sérieux, mais enfin, je ne suis pas un sémiologue. Mais dans une histoire sémantique ou son histoire lexicale dans la culture grecque et dans la culture biblique d'expression grecque, qui est une expression tout à fait privilégiée, hein, même si elle ne soutient pas totalement la concurrence avec l'expression sémitique du message révélé. Donc l'expression grecque a une place absolument immense, aussi bien pour les juifs que pour les chrétiens. Et donc, dans cette culture grecque, qu'on va prendre chez Platon, chez Démosthène, donc des gens tout à fait sérieux, très grands écrivains de la culture grecque classique, le terme grec était employé pour plusieurs mots, plusieurs significations, pardon, donc pour désigner par exemple la promesse d'une récompense, un message de paix, la proclamation d'une nouvelle, un message de paix ou un message de guerre, et qui est proclamé par quelqu'un qui joue un rôle très important, qu'on appelle le Kyrix, ou en français le héros, alors le héros H-E-R-A-U-T, Herald en anglais, il y a un journal anglais qui s'appelle le Herald Tribune, c'est très bien, alors ça, c'est le héros, la tribune. Et en français, quand même, on a le mot, le terme de l'héraldique, est un mot qui existe en français. Donc le héros, c'est un personnage qui a une fonction extrêmement importante dans la société antique. C'est un crieur public. Et c'est aussi un mot qui désigne quelquefois le poète. Ce que je trouve très important, et je vous prie de retenir cela, c'est un personnage qui est à la disposition des rois, des responsables, des très grands chefs politiques. Il est toujours de condition libre et souvent même de sang royal. Donc c'est intéressant qu'on choisit pour annoncer les très grands événements dans la cité et dans la société antique, on choisit des personnages absolument remarquables parce qu'on leur confie une responsabilité immense qui est la responsabilité de la vérité. Et nous sommes dans l'Antiquité, une société où l'écrit n'est pas utilisé. Donc la parole est sacrée, est infiniment respectable et respectée. Et toute la culture antique, aussi bien grecque que latine ou que sémitique, toute la culture antique est une culture de la parole. La parole, alors je regarde là parce que les messages commencent à... voilà quelqu'un qui dit... Vive Saint-Nicolas, Ambroise évêque, Amen. Bon, voilà, ça c'est quelqu'un qui a compris le message. J'en profite pour dire à nos chers auditeurs avec un Z majuscule qu'ils peuvent toujours nous envoyer des messages d'encouragement de ce genre sur le 06 60 20 41 64 ou sur notre messagerie tout à fait électronique marcantoine.costa@9.fr. Alors ça fait, quand j'ai dit ça, ça fait très, très chic. Voilà. Alors, donc effectivement, à notre époque, le héros est remplacé par Internet, mais avec beaucoup moins de fiabilité, au sens où nous nous permettons, j'en profite pour le dire quand même, nous permettons par les médias de propager des informations fausses. Et les médias sont aussi, un agent de désinformation, de surinformation, et de déformation, alors que en principe, le héros dit la vérité. En principe. Et je dirais tout à l'heure le contraire, parce que faut toujours savoir se contredire publiquement, c'est une façon d'être crédible aussi. Donc voilà le héros. Et alors le héros, dont je parle ici, il porte un insigne. J'ai Homère, par exemple. Là, ici, je ne m'appuie pas sur des références. Je ne vous donne pas toutes les références, donc c'est épuisant. Je pourrais vous les donner si vraiment vous mettez à genoux pour me le demander. Mais donc, j'utilise les références ici chez Homère. Chez Homère, le héros est un monsieur très, très, très important et il porte un insigne qui est le scyptron, c'est-à-dire le sceptre. Donc, il porte un espèce de bâton. Je dis tous ces détails-là parce qu'en fait, on les retrouve chez les chrétiens. Par exemple, le bâton sera la croix qu'on porte quand on annonce. Le sang royal, ça va être l'appartenance au peuple de Dieu et du sang du Christ même. Et je peux reprendre tous les mots que je vous ai donnés et les appliquer à la condition chrétienne. C'est extraordinairement important, le fait que ce soit un homme libre. Qu'est-ce qui est libre, sinon un chrétien? Alors donc, il porte un sceptre, et quelquefois, alors ça c'est chez Échille, Platon et Démosthène, pardon, le terme de kyrix, donc de héros, est joint à un autre mot grec, le terme de presbys, qui donne presbytère en français, presbytéral, presbytérium ou prêtre. C'est-à-dire non pas prêtre dans le sens de sacerdoce ou de pontife. Justement, en français, nous avons les deux mots, mais malheureusement, continuellement, la confusion est faite entre prêtre et pontife. Ce sont deux réalités quand même assez différentes. Ça va être dans le christianisme, j'en profite pour le dire aussi, le sacerdoce désigne l'ensemble des baptisés qui sont donc inscrits, greffés sur le pontificat du Christ, sur le sacerdoce du Christ. Et parmi cet ensemble, dans cet ensemble qu'est le peuple de Dieu, ce peuple sacerdotal de Dieu, il y a des personnes qui sont prêtres, des hommes qui sont choisis pour la prêtrise, ce qu'on appelle ce soit les anciens presbytes. C'est-à-dire, ça donne la presbytie, donc quelques-uns d'entre nous sont atteints, moi le premier, et c'est quelque chose qui affecte les jeunes vieillards, ou moins jeunes vieillards, et qui donc altère leur perception optique. Vous connaissez donc presbytie, c'est l'ancien. Donc le héros est quelquefois un ancien, mais il n'est pas un prêtre au sens religieux, il est prêtre au sens étymologique du mot, c'est-à-dire au sens de ancien, ce qui lui donne une qualification particulière pour être authentique dans son message. Donc vous voyez ici toutes les précautions en quelque sorte qui sont prises ou qui sont présentes pour assurer la validité du message, la validité de la promesse ou de la proclamation sur laquelle je vais dire. Donc il y a quelque chose qui est très très important à l'origine même du mot employé par les anciens. Qu'est-ce que je pourrais ajouter? Il faut savoir que quelquefois le héros est chargé dans les assemblées grecques, à l'époque de Démosthène, par exemple, il est chargé de proclamer des décrets. Donc il a un lien avec le monde juridique. Et il est chargé également, alors il a un lien avec la police, vous allez voir pourquoi, parce qu'il est chargé du bon ordre dans les assemblées. Ça ressemble un petit peu au rôle du diacre dans nos assemblées liturgiques. Soyons en silence. Le diacre dit assez souvent ça, ce qui laisse supposer que les communautés chrétiennes ont toujours été des communautés extrêmement bruyantes et bavardes, et qu'il fallait absolument un personnage de ce type-là, accrédité par l'évêque, pour demander le silence, l'attention, soyons attentifs, debout, toutes sortes de munitions qui sont de caractère justement héraldique, si je peux dire, au sens qu'il se rapporte au rôle du héros. Voilà, donc... c'est ça, par exemple, femme, faites taire vos enfants, etc. Enfin, on peut avoir quelques proclamations diaconales qui ressemblent tout à fait à la fonction du héros dans les assemblées démocratiques de la Grèce, puisque c'est dans un contexte. Et c'est très très important la Grèce. La Grèce est un peuple. Moi, je trouve que ça n'a jamais été vraiment. C'est très difficile la démocratie, comme vous le savez, si vous vivez en France actuellement. On se rend compte que c'est une activité extrêmement périlleuse et menacée. Bon, mais dans l'Antiquité, c'est pareil. Les gens avaient beaucoup de mal à vivre vraiment démocratiquement. Mais ils ont essayé et ils ont vraiment fait de leur mieux. Et donc, le héros fait partie aussi d'une société qui essaye de vivre démocratiquement. Ou d'une société qui essaye de vivre par des assemblées, de prendre les décisions en commun, d'avoir une prise de décision collégiale. Et ce qu'on retrouve typiquement dans l'Église chrétienne. Je ne veux pas dire que l'Église soit une démocratie, ce serait stupide de dire ça, je ne me permettrai pas de dire une baliverne pareille devant vous, mais l'Église est quand même le lieu où les décisions se prennent d'une manière collégiale avec le peuple, et de ceci nous l'avons hérité du peuple d'Israël, qui est en fait notre propre peuple, puisqu'une fois de plus, j'en profite pour dire qu'il n'y a pas deux peuples de Dieu, il y a un seul peuple de Dieu, c'est bien suffisant, et qui est l'Israël ancien et nouveau, c'est le même dans son prolongement charismatique par le Saint-Esprit. Donc, voilà, et ce mot, je vous le dis encore, il désigne un objet, le mot qui en grec désigne le héros, il désigne un objet également, c'est un coquillage. Alors ça, je ne peux pas vous en dire plus parce que je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu, mais c'était un coquillage en forme de trompe et qu'on utilisait pour émettre un son, comme une corne, si vous voulez, et pour donc attirer l'attention des personnes auxquelles on allait à faire l'annonce. Et donc, ce n'est pas une trompette. Hein, je pensais, avant d'avoir regardé un peu pour préparer ça, je pensais que c'était de la même racine qu'un mot qui voudrait dire la trompette. En fait, non. En fait, non. Et j'ai regardé aussi en grec, parce que j'aime beaucoup la langue grecque, comme vous le savez maintenant. Et je pensais que ça venait de la même racine que le mot qui en grec veut dire crier. Et en fait, non. En fait, non, c'est assez curieux. Kyrigma n'a pas de rapport avec kraso, qui veut dire crier. Bah non, je suis très déçu, d'ailleurs, parce que je pensais que ça, c'était ça. Du coup, j'en aurais profité pour faire un développement. Je vous aurais dit que c'est un crieur public. Je ne peux pas vous dire que c'est un crieur public, parce que ça, ce n'est pas du tout de la même famille. Ce sont deux racines indo-européennes différentes. En revanche, ce qui est clair, c'est que ce héros, qui est quand même un crieur public, il ne se servait pas d'un tambour, comme ça s'est passé dans certaines sociétés. Vous savez, on tapait sur un tambour quand on annonçait quelque chose d'important dans le village ou dans la ville. Il ne se servait pas d'un tambour, mais il devait se servir d'un instrument qu'on a fini par appeler du même nom que le héros lui-même, hein, par métonymie. Hein, c'est une figure de style. Moi, j'aime beaucoup les figures de style, c'est très, très intéressant. Donc, on finit par rapporter à un autre objet le nom qui désigne un objet précédent. Bon, donc il y a aussi, bien sûr, forcément, un verbe, le verbe kiriso, qui veut dire être ça, être le crieur public, être héros, mais qui veut dire également annoncer et qui veut dire convoquer une assemblée. Vous avez remarqué que j'ai insisté sur cette expression-là, parce que convoquer une assemblée, ben forcément, ça fait penser à église. Vous savez que le mot église en grec, ecclesia, vient de kaleo. Et kaleo, ça veut dire appeler. Donc l'Église est une assemblée convoquée. Ce n'est pas un groupe spontané, ce n'est pas un mouvement de foule, une manifestation comme ça se fait actuellement dans notre pays. Pas du tout, c'est une réunion du peuple d'hommes et de libres, et d'hommes et de femmes libres dans le cadre de l'Église, et qui se réunit sur convocation, sur appel, non pas une convocation écrite, comme on fait maintenant pour l'Assemblée Générale des Doyennés Orthodoxes Roumains de France, par exemple, on envoie des convocations, mais fait sur convocation orale, hein, parce que c'est comme ça qu'on fonctionne dans l'Antiquité. Donc, kyrisso, c'est convoquer une Assemblée, et bien sûr aussi proclamer, demander, ou même ordonner, c'est-à-dire demander l'exécution d'un décret, l'exécution d'une loi. Oui, c'est un mot qui a toute une gamme de sens, que moi, personnellement, je trouve extrêmement intéressant, surtout quand vous allez voir quand on l'applique ensuite. Et alors, donc, déjà, je peux vous dire que chez les pères, par exemple, Clément d'Alexandrie, dans les Stromates, Stromate numéro 7, chapitre 9, paragraphe 52, kyrixis, qui est un autre mot, qui est une variante de kyrigma. Ça s'écrit pareil, je sais pas comment écrire ça en français, K-E-R-U-X-I-S, Kyrixis en grec, désigne chez Clément d'Alexandrie la prédication. La prédication, et dans l'Évangile selon saint Marc, chapitre 6, verset 12, le même mot désigne, le verbe ici, Kyrisso, veut dire prêcher, et veut dire quand même crier. Par exemple, il est appliqué à un animal extrêmement sympathique que les Français aiment tout particulièrement, qui est le coq. Vous savez que le coq est un des emblèmes du pays où nous achetons notre pain, et le coq est celui, qu'est-ce qu'il fait le coq dans sa vie? Il est un animal assez actif, comme vous savez, je ne voudrais pas entrer dans les détails, ce n'est pas le sujet ce soir exactement, mais il a une particularité très intéressante, c'est qu'il annonce le jour. Ça, c'est magnifique, si vous voulez. Donc, le coq est par excellence, il est l'emblème même de l'annonce, de la proclamation. Ça me fait penser à un poème d'Arthur Rimbaud. Vous allez me dire, ça n'a aucun sujet, pourquoi est-ce qu'il nous parle d'Arthur Rimbaud alors qu'on parle d'autre chose? Si, parce que dans Arthur Rimbaud, il y a dans un recueil de poèmes qui s'appelle Les Illuminations, il y a un poème qui s'appelle Aube. Et dans Aube, je ne dis pas ça sans une très grande émotion, d'ailleurs, parce que c'est vraiment magnifique. Dans Aube, le poète qui parle de la première personne du singulier, il dit « J'ai annoncé ». Et qu'est-ce qu'il a annoncé ? Il a annoncé l'aube aux plantes, à la nature, en marchant à travers, un matin, comme ça, il se lève, il traverse la nature, et il a cette conscience que lui, en tant que poète, il est en train d'annoncer l'aube au monde. Vous qui êtes un meilleur connaisseur, je pense, même que moi, des poèmes, de la littérature. Donc, ça, c'est assez intéressant, parce que le poète chez Rimbaud, et justement dans cette position héraldique, la position de héros, celui qui annonce, et ça renvoie au sens que je vous ai suggéré tout à l'heure, parce qu'il est dans l'Antiquité, Kyrix veut dire également le poète. Et donc c'est vrai, je pense à ce poème d'Arthur Rimbaud, dont je vous recommande la lecture, c'est quand même assez magnifique. Peut-être que c'est la fonction de l'être humain quand même, vous voyez, la fonction prophétique de l'être humain, que d'annoncer pas seulement le lever du soleil, mais d'annoncer la lumière de Dieu, d'annoncer justement, on va le voir, vérité divine qui est la lumière du monde. Et donc, comme je vous ai dit, ça n'a aucun rapport avec le verbe karazo, qui veut dire crier. Alors, ça c'est, donc, ce sont les bases, les fondements, un peu rapidement présentés, je vous demande pardon, mais... Et le fondement dans la culture grecque, classique, mais c'est incontournable. Et je pense que nous avons déjà à peu près tous les éléments vraiment intéressants du sujet et de ce qui tourne autour de la notion de kérigme. Voilà. Alors, où est-ce qu'on trouve ce mot encore? Mais on avance dans les textes, si vous voulez. Bien, dans la Bible. Dans la Bible grecque, le mot est employé... constamment, très 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 fréquemment. Alors j'ai fait un résumé. Alors ici, je me sers pour la première partie, je me sers des dictionnaires grecs que j'ai, principalement le dictionnaire de Bayzig, dictionnaire absolument vénérable, et dictionnaire de Magnin Lacroix. Ces dictionnaires de grec classique donnent beaucoup d'éléments et donnent des citations classiques. C'est extraordinairement intéressant et ça permet justement de chercher le mot, chercher le terme et de vérifier, de dire des choses précises. Et moi, ça m'a permis, par exemple, de faire la distinction et de ne pas vous dire que c'était de la même racine que le mot crier. C'est grâce à M. Bailly que Dieu lui accorde le repos. Alors, dans la Bible, et là je me sers non pas d'un dictionnaire, mais d'un très très bon livre que je vous montre, dont je parle tout le temps, mais je continue à en parler. Alors, je le montre très haut pour que ceux qui nous regardent le voient. Et donc, il s'agit du vocabulaire de théologie biblique. C'est publié au CERF. Et moi, j'ai ici l'édition de 1995. Alors, c'est pas tellement vieux, tout le monde était ici déjà né, je pense, parmi vous. Mais il y a certainement des éditions plus récentes, et donc meilleures que celle-ci. Moi, j'utilise donc l'édition de 1995. Et dans cette édition du vocabulaire, du VTB, comme on dit, parce qu'on dit VTB, il n'y a pas un article directement consacré au mot kérigme, mais il y a quatre entrées qui s'y rapportent. La première entrée qui se rapporte à la notion, au concept et éventuellement au mot lui-même de kérigme, c'est page 193, ce qui désigne la confession de la foi. Ah oui, on est en train d'entrer quand même dans le sujet d'une manière beaucoup plus directe. Voilà, donc je ne vous dis pas tout parce que ce serait extrêmement fastidieux et ça nous prendrait un temps précieux, mais quand même, cette introduction au terme de confession de la foi, page 192-193, il dit ça, c'est assez intéressant, il dit « La confession de foi est une attitude essentielle de l'homme religieux. Elle n'est pas nécessairement liée à une connaissance distincte et à une énumération complète des gestes de Dieu, mais elle implique d'abord une attitude pratique d'ouverture et d'accueil à ses initiatives. Aussi conduit-elle normalement à la connaissance de Dieu et à la réaction que doit susciter cette prise de conscience, c'est-à-dire l'action de grâce. Elle est la justification et l'expression publique de l'action de grâce et de la louange, par exemple dans les psaumes. » Alors, par exemple, il donne, comme pour illustrer ce point de vue, il donne dans l'Ancien Testament cette activité dont j'ai déjà parlé dans le premier cours, entre guillemets, que nous avons eu, quand j'ai présenté la théologie suivant notre manière d'être, orthodoxe, disons, je vous ai dit que la théologie est essentiellement une activité de l'esprit humain comment dire, qui est un prolongement de la glorification du nom de Dieu. Et donc c'est pour ça que la théologie se rapporte de manière organique à ce très grand prophète et théologien qu'est Moïse. Moïse, allez. Alors donc ici, effectivement, oui, il dit ça. Il dit la confession, l'action de grâce, la louange et la bénédiction sont constamment unies. Elles ont pour point de départ les œuvres de Dieu. Les formules les plus anciennes sont brèves. Elles sont utilisées comme titre donné à Dieu dans le culte. Voilà, par exemple, on dit « mon rocher, ma force, mon salut » dans les psaumes. On annonce que Dieu est incomparable dans le livre de l'Exode, chapitre 15, verset 11, dans le psaume 18. Mais il s'agit de son action historique, et ce n'est pas une réflexion philosophique sur sa nature. C'est assez intéressant. C'est que le kérib, ça consiste à annoncer une vérité ou des faits. Vous savez que l'expérience chrétienne est fondée sur ces deux réalités. Nous annonçons, nous vivons de la vérité révélée, comme nous disions tout à l'heure, et nous vivons également du témoignage à l'égard de faits. Hein, par exemple, la résurrection, ce n'est pas une doctrine. Et ce n'est même pas une révélation, d'ailleurs. Et moi, j'espère que je ne déçois personne. Ça peut être une révélation par le Saint-Esprit qui nous y fait adhérer. Mais au point de départ, la résurrection, c'est un fait. C'est un agir divin, c'est une action divine, c'est un fait comme la création du monde. C'est un fait. L'incarnation, c'est un fait. Donc, il y a beaucoup de réalités dans notre expérience chrétienne qui relèvent du fait. Or, le kérigme a comme contenu la proclamation ou l'annonce et de la vérité révélée et des faits, c'est-à-dire des actions divines. Et de même, il est forcément dans l'un et dans l'autre responsable d'annoncer la volonté de Dieu. C'est pour ça qu'il y a quelque chose de prophétique, hein, que les grands prophètes de l'Ancien Testament, je n'aime pas l'expression « testament », les grands prophètes, là, on va dire, les grands prophètes, au fond, étaient des héros, dans ce sens-là, vous voyez, puisqu'ils annonçaient ce que Dieu avait fait ou allait faire, ils annonçaient ce que Dieu avait révélé de lui-même très fréquemment, par exemple, qu'il est miséricordieux, etc. Et ils annonçaient aussi la volonté de Dieu, le vouloir divin, donc les décrets divins. Ça, c'est quelque chose qui est typique du prophétisme juif et qui est très différent de ce point de vue-là de la fonction de héros dans l'Antiquité grecque. Dans l'Antiquité grecque, vous savez, les dieux n'avaient pas grand-chose à dire. Au fond, on n'était pas pris très, 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 très au sérieux, surtout à l'époque classique. Il y a une certaine disqualification quand même du Panthéon. Je crois que les Grecs comme Platon ou autres, si vous voulez, c'était pas tellement ça leur problème. Les dieux n'avaient pas de message très, très particulier, sauf à Delphes. Alors, certains sanctuaires très particuliers, pas très fréquents d'ailleurs, où effectivement il y avait des oracles et les gens allaient là et consultaient, écoutaient l'oracle et après ça effectivement éventuellement on pouvait annoncer ce que l'oracle avait dit, c'est-à-dire ce que le Dieu, non pas Dieu mais le Dieu, ô Théos, avait pu dire à ce moment-là, oui. Mais c'est quand même assez limité, alors que dans le monde juif c'est absolument énorme, c'est absolument central, si je peux dire, de l'activité de la culture juive. Presque l'essentiel consiste à annoncer ce que Dieu a fait, ce que Dieu est, ou ce qu'il révèle de lui-même, et ce que Dieu veut. Et donc on touche déjà, dans le kérigme, vous voyez, ça commence à se charger un petit peu, ça devient déjà un petit peu un contenu déjà encore plus intéressant que tout à l'heure, vous voyez. Donc ça vous, éventuellement, vous pouvez retrouver ça dans... je vous conseille beaucoup, peut-être pas d'acheter personnellement, parce que ce sont des livres, c'est tout pareil, les livres, c'est très onéreux, mais vous appartenez tous à des paroisses, et dans les bibliothèques paroissiales, on devrait, il serait bon d'avoir ce livre, et de l'avoir en plusieurs exemplaires. Essayez d'avoir bibliothèque paroissiale, d'acheter au moins deux exemplaires. Ça se trouve d'occasion quand même aussi. Hein. Deux exemplaires de ce vocabulaire de théologie biblique, parce que c'est vraiment un instrument de travail de base et La musique, c'est incontournable. Ça et un bon index biblique, hein. Ce sont des outils constants, vous voyez, c'est tellement intéressant. Si vous avez des groupes bibliques dans vos paroisses, ce que je vous souhaite de tout cœur, eh bien, ces groupes bibliques travaillent avec des instruments de cet ordre, vous voyez, c'est vraiment très important. Parce qu'il y a des personnes qui travaillent bien de manière scientifique. Donc, vous voyez, le kérigme se rapporte à la confession de la foi, dans ce sens-là. Ensuite, dans d'autres passages bibliques toujours, le VTB, toujours, page 360 et page 364, hein, il rapporte le concept ou la notion biblique, kérigme. Il la rapporte à l'idée d'enseignement, ce qui est quand même qui est un petit peu différent, mais qui précise, vous voyez, comme on commence déjà quand même à avoir fait, on a fait un peu de chemin par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure du héros, l'enseignement, et donc je vous montre un petit peu ce qu'il dit, c'est pour vous mettre l'eau à la bouche et vous donner envie d'en lire plus. Bon, il dit que dans l'ensemble de la Bible, c'est-à-dire avant et après l'incarnation du Verbe, on va dire, pour ne pas employer cette expression vraiment à laquelle je ne suis pas à l'aise de Ancien et Nouveau Testament, je préfère dire dans la Bible, avant et après, ou depuis l'incarnation du Verbe. Je crois que c'est quand même ça qui est fondamental. Eh bien, la foi est fondée sur une révélation divine dont les prophètes, au sens général du mot, parce que les prophètes, si vous voulez, vous avez dans le judaïsme des prophètes qui sortaient d'écoles de prophètes, donc des gens qui étaient vraiment des spécialistes, tu peux dire, formés pour cette fonction héraldique, j'emploie le mot maintenant, dans le peuple de Dieu. Donc, dans la Bible, avant et après l'incarnation, tout ce qui est de caractère prophétique signifie le fait que quelqu'un est porteur de la foi. Mais, il continue, il parle ici des prophètes anciens, quand même plutôt, hein, cette révélation doit parvenir à la connaissance des hommes jusque dans ses détails et dans ses conséquences pratiques. C'est-à-dire que ça va vers l'accomplissement de la volonté de Dieu. De là, dans le peuple de Dieu, l'importance de la fonction d'enseignement qui transmet sous forme d'instruction la science des choses divines. Donc, vous voyez, alors là, comme vous êtes des gens extrêmement sensibles et extrêmement intelligents, vous avez vu qu'il y a déjà un rapport entre le comportement héraldique ou kérigmatique et la théologie elle-même. Au fond, un théologien ou une théologienne, c'est finalement quelqu'un qui assume dans l'Église, non pas une activité didactique, académique, je crois que j'ai vraiment montré la différence avec tout ça, c'est pas extraordinairement intéressant, vous voyez, mais essentiellement une attitude kérigmatique, hein. Kérigmatique et prophétique, hein, vous voyez, il transmet la science des choses divines, parce qu'il y a quand même une science des choses divines, nous avons quand même à transmettre ce que Dieu nous a révélé de lui-même, et non pas des inventions humaines au sujet de Dieu, mais comme je l'ai dit dans le premier. Première rencontre théologique que nous avons eue, ce que Dieu a dit de lui-même, ce qu'il a dit à Moïse, ce qu'il a dit, etc. Bon, cet enseignement est d'abord une prédication. Je lis toujours le texte de la VTB, page 359. Cet enseignement est d'abord une prédication qui proclame le salut de Dieu tel qu'il advient dans l'histoire. Et il dit, c'est ça le kérigme. Vous voyez? Puis il en fournit une compréhension plus approfondie et montre comment la situation d'alliance créée par Dieu s'applique concrètement dans les conditions de vie de son peuple. Donc vous voyez, là on est tout à fait dans un sujet très très intéressant et vous commencez à voir aussi comment kérigme s'articule avec dogme dont nous parlions la dernière fois. Je ne suis pas sûr d'arriver au bout de tout ce que j'ai préparé d'ailleurs, mais bon, on verra bien, on verra bien. Et alors après ça, dans la suite de l'article que vous lirez vous-même, ce sera beaucoup plus facile, et il développe, c'est assez intéressant, dans l'Ancien Testament, la fonction du père de famille, dans ce domaine-là, du père des familles juives, qui joue un rôle kérigmatique au sein de ce milieu qu'est la famille juive traditionnelle, le rôle des prêtres, qui effectivement ont ce domaine-là, mais une responsabilité plus large, chargés par devoir professionnel du culte et de la loi, ils remplissent de ce fait une fonction doctorale, nous explique très bien le VTB, et puis les prophètes, voilà, on y vient, les prophètes qui ont une mission un peu différente. La parole de Dieu qu'ils transmettent n'est pas puisée dans la tradition, mais ils la reçoivent directement de Dieu. Alors ça, c'est très intéressant, parce que ça nous rapporte à ce que nous disions du héros tout à l'heure, c'est quelqu'un qui est lié au roi. Alors, qui est le roi? C'est quand même Dieu, principalement. Hein. Et en Israël, vous savez que pendant très longtemps, le peuple juif a été assez intelligent pour ne pas avoir de roi. Je ne voudrais pas me mêler de ce qui ne me regarde pas et être indiscret ou être être la proie de contestations violentes, mais il me semble que l'arrivée de la royauté en Israël est une décadence. Une décadence. Et pendant longtemps, Dieu a refusé à résister à cette demande d'avoir un roi, parce que c'est lui le roi. Et quand on a commencé à voir... C'est un problème très 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 important. Et donc, ça veut dire, en tout cas, le prophète est lié à celui qui est le roi d'Israël, c'est-à-dire Dieu lui-même. Bon, donc vous lirez ça éventuellement. Et puis, ce qu'on appelle également en Israël les sages, dans, par exemple, le livre de la sagesse, on a allusion à des personnes qui ne sont pas des prophètes, qui ne sont pas des prêtres, qui sont des sages, et qui, par exemple, le livre des Proverbes est un livre, ce qu'on appelle un livre sapientiel. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit. Et ce n'est pas un livre prophétique. Mais ça entre aussi quand même dans l'activité kérigmatique. D'accord ? Donc ça c'est... Et puis, page 364, les auteurs ici reprennent le thème en l'appliquant à l'expérience biblique à partir de l'incarnation du Verbe. Parce que ce qui est extraordinaire, si vous voulez, c'est que historiquement, on le sait ça, mais c'est quand même bien de s'en émerveiller, historiquement, Dieu, après avoir parlé par les prophètes, s'est fait homme pour parler lui-même, directement par sa propre bouche divino-humaine et par son propre Esprit Saint. C'est quand même une initiative divine et une entrée de Dieu dans l'histoire pour assumer lui-même, finalement, son propre kérigme. Alors ça, c'est très, très intéressant, parce que, le kérigme, le kérix, le héros, n'est plus quelqu'un qui est au service de Dieu, mais c'est Dieu lui-même qui se fait héros de lui-même, ou plutôt le fils qui se fait, enfin, il se fait pas. Il est envoyé par le Père, hein, et il assume cette responsabilité d'être le héros du Père. Celui qui parle de la part du Père, ou celui en qui le Père parle, le porte-voix du Père, le porte-parole. Mais il est la parole lui-même, il est la parole porte-parole, ce qui est assez extraordinaire, parce qu'on peut jouer là-dessus, hein, c'est que la parole parle. C'est la parole parle. Et c'est pas la parole, c'est assez intéressant, mais c'est pas seulement la parole qui parle de Dieu. Mais c'est la parole, c'est Dieu qui parle en tant que parole qui parle, c'est Dieu parlant, qui se fait extraordinairement parlant, mais non seulement par les mots qu'il emploie, mais par sa vie et par son exemple. C'est-à-dire que le Christ, en tant que héros divin, est aussi éloquent par les mots qu'il emploie que par les actes qu'il fait. Je ne parle pas seulement des actes miraculeux, qui sont tout à fait extraordinaires et extraordinairement parlants, et par sa présence personnelle. La présence de Jésus-Christ dans le milieu juif de Capharnaüm ou le milieu juif de Jérusalem, sa simple présence, indépendamment des mots qu'il emploie, indépendamment des miracles qu'il a fait, il n'en a pas fait beaucoup, il n'aimait pas trop faire des miracles. Ce n'est pas tellement son registre. Hein. Oh là là, les miracles, on voulait encore des miracles. Avec les miracles qui vous intéressent, ce n'est pas son... Mais c'était ce qu'il était, sa présence. Quand il, écoutez, c'est étonnant, j'aime beaucoup cet évangile quand le Christ entre à Naïm, une ville qui s'appelle, je crois, la cité de la joie, si on traduit comme notre écrivain, comment il s'appelle, un journaliste qui a écrit un livre sur Calcutta,
La Pierre,
Dominique Lapierre, c'est ça ? Et il a appelé son livre La Cité de la Joie. Et personne n'a pensé à ce moment-là qu'en fait, il a réutilisé le terme de Naïm pour l'appliquer à ce livre d'une manière tout à fait paradoxale, puisque Calcutta, comme vous savez, pas une ville tellement rigolote, on peut dire ça. En tout cas, elle l'est pas pour tout le monde. Mais c'est vrai aussi, parce que c'est aussi dans ce contexte absolument désastreux que la parole évangélique est annoncée. Donc le Christ, il vient dans Naïm, il entre dans Naïm, et il rencontre l'humanité la plus malheureuse qui soit. Je ne vais pas vous raconter l'évangile que vous connaissez aussi bien que moi. Et il ne dit pas grand-chose, voyez. Il ne dit pas grand-chose. Il est éloquent par sa présence, par son acte et par son toucher. Il touche le cercueil, et il y a un contact physique, corporel, mais absolument rempli des énergies divines. C'est ça qui est absolument étonnant. Et ce contact corporel, et puis il dit quand même, « Jeune homme, je te le dis, lève-toi. » C'est-à-dire qu'il dit, c'est assez intéressant, parce qu'en tant que héros, si on continue à dire ça, il n'est pas en train d'annoncer quelque chose du passé, il n'est pas en train d'annoncer quelque chose qui va venir, il n'est pas en train de dire une révélation de Dieu, il n'est même pas en train de dire ce qu'est la volonté de Dieu, mais il est en train d'agir. Il est en train d'agir en tant que Dieu, comme il l'a fait au principe, quand il est avec le Père et l'Esprit, il a créé le monde. C'est-à-dire en tant que parole, c'est la parole elle-même, si vous voulez, qui est active. Alors, donc ça, c'est l'extraordinaire limite absolument, insaisissable pour nous, la limite extrême et infinie, hein, c'est le signe infini, mis à côté du mot kérigme. C'est que Dieu va jusque-là. Dieu va jusque-là, ce qui est, j'allais dire l'intérêt, si vous dire l'intérêt, mais ce qui est la merveille de l'incarnation. C'est pour ça que des personnes qui ne croient pas en l'incarnation de Dieu ont une vie vraiment très très pauvre, très petite. C'est vraiment une privation, une auto-privation de la réalité la plus extraordinaire qui soit. Mais bon, si on veut se priver de... Les gens qui se privent de chocolat, j'ai rencontré l'autre monsieur. Alors, on devait avoir un rendez-vous en vue d'une conférence. Et alors, je lui ai dit, est-ce que vous voulez un café? Il me dit, oui, je veux bien un café. Et je dis, qu'est-ce que j'ai à vous manger? Il y avait des chocolats. Est-ce que vous voulez des chocolats? Il me dit, non, je ne mange pas de chocolat. Bon, est-ce que vous voulez, je ne mange pas de chocolat? C'est tant pis pour lui, c'est très très dommage. Mais en fait, il ne pouvait pas, je crois qu'il avait été une maladie, quelque chose comme ça. Mais il y a peut-être des personnes qui ont eu aussi une déficience à un moment de leur vie, qui du coup ne peuvent pas recevoir cette merveille savoureuse de l'incarnation, qui là aussi n'est pas une révélation, mais est un fait. Bon. Voilà, donc il développe ça d'une manière beaucoup moins théologique qu'on pourrait le faire, mais il dit quand même, durant sa vie publique, hein, bon là il dit, bon, il va parler des héros que sont les apôtres. Jésus confie à ses disciples des missions transitoires qui concernent moins l'enseignement sous ses formes détaillées que la proclamation de l'Évangile. Mais oui, ça c'est un aspect précis du concept du kérigme. C'est seulement après sa résurrection qu'ils reçoivent de lui un ordre précis, les instituant à la fois prédicateurs, apôtres et docteurs, ce qui est exprimé dans la deuxième épître à Timothée, chapitre 1, verset 11, où cette autre, alors justement, cette parole très typique, très, très fondatrice du kérigme chrétien, « Allez, de toutes les nations faites des disciples, leur enseignant à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Vous savez que c'est la fin de l'évangile selon saint Matthieu. C'est intéressant parce que c'est l'évangile qui est lu dans le sacrement du baptême. Et c'est extraordinairement intéressant, ça veut dire que on est débordé tellement le sujet est intéressant. C'est-à-dire que la liturgie, les actions liturgiques qui sont celles de l'Église, qu'on appelle les sacrements, mais tout est sacramentel, il n'y a pas les sacrements comme ça, comme des choses, ça c'est une manière occidentale, décadente, de voir la réalité. Hein. La liturgie dans son ensemble, toute activité liturgique a un caractère kérigmatique. Et surtout dans les très grandes actions de l'Église, qui se reconnaissent au fait que l'Évangile est proclamé. Mais ces grandes actions, c'est aussi bien l'office de matine du dimanche matin. L'office de matine de l'orthros du dimanche matin est un office à caractère charismatique, oui, mais kérigmatique. Parce que l'évangile de la résurrection est proclamé. C'est pour ça qu'il faut y être. Et malheureusement, on voit dans les églises ce qui se passe, c'est que la plupart d'entre nous arrivons à l'église vers 11h15, 11h30, quelquefois midi, quelquefois un petit peu après, parce qu'il y a des agapes, enfin bon. Parce qu'on a annoncé que les agapes seraient précédées de la liturgie, mais ça n'encourage pas les gens, malheureusement, à venir bien avant. Or, non, généralement, l'office des matines, il est avant 10h30. Donc quelqu'un qui ne peut pas, mais il y a beaucoup de raisons de ne pas pouvoir venir, on a son chien à promener, les enfants à habiller, je ne sais pas quoi, il faut gratter les vitres des voitures parce qu'il a fait froid, enfin, il y a des tas de raisons, on ne juge pas, on n'est pas là pour... Mais c'était là qu'il fallait être à l'office des matines, quand on lit, et là aussi on ne dit pas ça sans émotion, c'est un moment extraordinaire, on lit l'évangile de la résurrection. Donc ce caractère proclamatoire et kérigmatique de l'office est remarquable. Mais c'est vrai, bien sûr, pour d'autres actes. C'est pour ça que je parle du baptême. Quand on célèbre le baptême, on n'est pas en train de faire un rite uniquement social, etc., comme c'est quelquefois le cas, mais on est en train de proclamer l'évangile. Et le Christ lui-même parle dans le baptême et dit ça. Il dit « Allez, enseignez », c'est ça. Oui. Donc, vous comprenez tout l'intérêt du mot. Vous voyez que c'est quand même très, très différent du concept de dogme. Quelle que soit la beauté du mot dogme, que j'ai essayé de vous faire aimer au maximum l'autre jour. Mais c'est quand même autre chose. C'est du domaine, proclamatoire. Donc, et alors c'est assez important, il est très bon ce BTB. Pour l'accomplissement de cette tâche aux perspectives immenses, il leur a promis entre-temps que l'Esprit Saint leur serait envoyé et qu'il leur enseignerait tout. C'est dans Jean 14, 26. Disciples de l'Esprit, pour devenir parfaits disciples du Christ, ils transmettront donc aux hommes un enseignement qui ne viendra pas d'eux, mais de Dieu. C'est pour cela qu'ils pourront parler avec autorité. Le Seigneur sera lui-même avec eux jusqu'à la fin des siècles. Ce que dit le Christ en Matthieu 28, 20 et en Jean 14, 18 et suivant. Donc ça, c'est assez... Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'éléments intéressants dans ça, vous voyez. D'une part, la place du Saint-Esprit dans le kérigme, hein, parce que jusqu'à présent, on a parlé du Christ, autant que je peux, présenter le caractère christologique, christocentrique du kérigme. Mais il y a un aspect pneumatologique, si vous me pardonnez ce gros mot, c'est un aspect pneumatologique du kérigme et qui est incontournable. C'est-à-dire que sans le Saint-Esprit, personne ne peut annoncer que Jésus-Christ est Seigneur, personne ne peut annoncer que Jésus-Christ est ressuscité, etc. C'est-à-dire que l'activité kérigmatique du Christ est rigoureusement coordonnée à l'activité du Saint-Esprit. De même que le Christ n'est pas venu dans le monde sans le Saint-Esprit. Tout le monde ici est devant le petit écran, devant vos étranges lucarnes, comme disait. C'était le Canard Enchaîné. Le Canard Enchaîné, c'est un journal qu'il faut lire pas trop souvent parce qu'il est un peu négatif, mais il y a des choses très très drôles de temps en temps. Et il y a très longtemps, il y avait eu un article dans le Canard Enchaîné à l'époque où la télévision commençait à apparaître. Donc l'expression qui était employée s'appelait les étranges lucarnes. Les étranges lucarnes pour désigner la télévision. Donc vous qui êtes devant vos étranges lucarnes, vous devez savoir que l'Esprit Saint ne peut pas être oublié dans la définition du charisme. Et en même temps, dans ce que je vous ai dit tout à l'heure, l'autre idée très très importante, c'est que dans toute l'activité kérigmatique, c'est-à-dire prophétique, missionnaire, apostolique des disciples et des apôtres, eh bien, le Christ est présent. Alors ça, c'est vraiment très, très, très important. Ce qu'on appelle l'Église apostolique, l'apostolicité de l'Église, c'est-à-dire son charisme missionnaire et évangélisant ou évangélisatoire ou d'évangélisation, c'est un charisme qui est fondé sur la présence personnelle, réelle, concrète, quoique invisible, du Christ par le Saint-Esprit. Ça, c'est extrêmement important. L'Église n'est pas un corps religieux de personnes déléguées par un absent. Et c'est pour ça que nous n'avons pas besoin, à la tête de l'Église, de quelqu'un qui serait le remplaçant du Christ, un vicaire ou un lieutenant du Christ. Les évêques, par exemple, ne remplacent pas le Christ. Non, non, non. les prêtres non plus, personne ne remplace le Christ. Le Christ n'a pas à être remplacé puisqu'il est présent, qu'il le dit au moins deux fois dans l'Évangile. Donc ça veut dire que derrière l'activité kérigmatique, il y a le Christ comme fondement, comme hypostase même, si vous voulez, de la proclamation de la vérité du Père et de la volonté du Père. Ça, c'est extrêmement très important. Il y a le héros, et les disciples sont les héros du héros, si vous voulez, hein, si on se rapporte à ce que je disais précédemment, ce qui est extraordinairement intéressant. Simplement, si vous voulez, Dieu, il faut comprendre le fonctionnement divin. Ce que Dieu aime, c'est d'associer d'autres créatures, des personnes créées, que ce soit les anges. Vous en préparez justement de l'activité kérigmatique des anges, comme très important aussi. Donc, ce que Dieu aime, c'est d'associer des créatures à son œuvre de salut et à la manifestation de son amour. Et comme Dieu fonctionne de cette façon-là, c'est la façon d'être de Dieu. Donc, il associe des disciples, des apôtres à son œuvre. Mais il ne se fait pas remplacer par eux, et il ne fait pas ça par déficience, parce qu'il a besoin d'eux, autrement il ne s'en sortirait pas, ou quelque chose comme ça, vous voyez. Ou bien qu'il dit, écoutez, je m'en vais. J'en profite pour dire aussi que ça, c'est lié à une interprétation très, très, très inexacte, qui malheureusement se trouve dans la traduction imparfaite que nous avons du credo. Nous continuons malheureusement à dire et à chanter, dans plusieurs langues d'ailleurs, et il reviendra en gloire juger les vivants et les morts. Or, en roumain, c'est pareil. C'est également le futur que vous employez, malheureusement. Et les Français, on va paraître, etc. Et parce que nous sommes influencés par la conception occidentale des choses. Et qui, en l'occurrence, vraiment très, très inexacte. Que dit le grec ? Apprenons le grec. Apprenons le grec. Le grec dit, c'est quelque chose d'extraordinaire, et de nouveau, avec gloire, il vient. Il vient juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Donc, on est dans un présent. Ça a été bien expliqué par le Père Stanislaus, parce que j'en profite, puisque je suis engagé à prononcer son nom au moins une fois dans chaque cours. Le Père Stanislaus explique ça très bien dans la dogmatique que vous allez pouvoir lire en français à partir de l'an de gloire 2013. Et le Père Stanislaus, il exprime ça très très bien en se fondant sur les textes de Saint Maxime le Confesseur et de Saint Cyril d'Alexandrie, que le Christ, si vous voulez, est simultanément à la droite du Père, siégeant à la droite du Père et présent par le Saint-Esprit dans l'Église. Et nous savons ça parce que si les prêtres disaient certaines prières à haute voix, tout le monde le saurait, mais au moins les prêtres savent ça, parce qu'ils disent avant l'élévation des dons, avant la fraction du pain, avant de dire sfinteles sfincilor, les saints dons, non pas les choses saintes, s'il vous plaît, pas de choses, avant les saints dons aux saints, il dit une prière qui est remarquable, qui s'adresse au Christ, et qui dit, toi qui sièges en haut, à la droite du Père, et qui est invisiblement présent avec nous, par le Saint-Esprit. Dit ça. Cette prière-là, c'est une minuscule prière, que personne n'entend, parce qu'elle est dite à tout à l'heure, pendant que le cœur chante très très fort, etc. Dit tout. Elle dit ça, que le Christ est effectivement présent par le Saint-Esprit. Et donc, il est pour cette raison-là le support du kérigme chrétien. D'accord ? Alors, ensuite, toujours, je me contente ici, très paresseusement, de commenter ces très bons textes du VTB. Et toujours page 364, vous pourrez relire, le très bon écrivain qui fait le travail ici pour moi, pour nous, dit ceci : il dit, après la Pentecôte, alors bon, ça va continuer, vous allez voir tout ce qu'on a dit du Saint-Esprit. Après la Pentecôte, les apôtres remplissent cette mission d'enseignement, non en leur nom propre, ça merci, on pensait le savoir, mais au nom de Jésus. Et c'est une citation du livre des Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 18, oui c'est ça, et chapitre 5, verset 28. Donc c'est pas une idée, c'est une conscience qu'on fait tout au nom d'eux, mais que l'expression au nom d'eux, c'est toujours pareil. Ça peut être interprété de manière tout à fait erronée. Au nom d'eux, ça peut vouloir dire il n'est pas là et il m'a dit de venir parler à sa place. Mais au nom d'eux, ça peut vouloir dire dans la puissance du nom, c'est-à-dire en toute présence de la personne pour qui on parle. C'est-à-dire totalement connecté, pour employer un langage cher à nos auditeurs internautes, hein, entièrement connecté au nom. Et c'est pour ça aussi que la fin de la liturgie, parce que tout est dans la liturgie de notre église orthodoxe, la liturgie selon Saint Jean Chrysostome ou Saint Basile, et c'est absolument complet. Hein. Et à la fin de la liturgie, qu'est-ce qu'on chante ? Que le nom du Seigneur soit béni dès maintenant et toujours. Et on le chante trois fois, pour vraiment que tout le monde ait bien entendu que tout ce qui a été fait là a été fait au nom d'eux, non pas d'un absent, mais dans le nom d'un présent, et qu'on va continuer à le faire. Donc c'est pratiquement la conclusion de la célébration liturgique, parce que juste après, qu'est-ce qu'on va avoir ? On va avoir la bénédiction, on va avoir... Vous voyez, c'est-à-dire que la bénédiction du Seigneur soit sur vous, etc. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Et puis que le cri de notre vrai Dieu par les prières de sa mère très pure et des saints, etc. Donc, la mention, la référence au nom de Dieu et au nom de Jésus très particulièrement, qui est le dernier nom divin, est donc là, et elle ouvre justement à l'après-liturgie qui est la mission en fait. C'est pour ça qu'après ça, on dit, non, c'était juste avant. Non, ah non, c'est intéressant, c'est juste avant que le prêtre a dit, allons en paix, qu'il a dit la prière de Lambon. Donc, sortons, allons, c'est-à-dire qu'il a dit cette parole d'envoi kérigmatique dans le monde, il dit ça, et après ça, on dit, que le nom du Seigneur soit béni. C'est-à-dire, ce qu'on va faire dans le monde, on le fait au nom du Christ. Voilà, donc c'était... ce que vous disiez là, donc, ce rôle des apôtres, le rôle charismatique des apôtres. Mais vous verrez, c'est très intéressant, parce qu'il dit, comme Jésus, ils enseignent au temple, à la synagogue, dans les maisons particulières. Ça, c'est le livre des actes. Le livre des actes des apôtres, au fond, est un livre particulièrement charismatique. Au fond. Il est essentiellement axé là-dessus, sur l'annonce. Et d'ailleurs, on en profite pour le dire tout de suite, je n'avais pas pensé à le dire avant, mais je le dis maintenant, que le kérigme est lié au martyr, puisque la plupart des personnes qui assument la fonction kérigmatique dans les actes des apôtres sont des personnes qui vont verser leur sang pour cette annonce. Et qu'il y a un rapport entre kérigme et martyr. Exemple, Saint-Étienne déjà, hein. Mais aussi, exemple, l'apôtre Pierre et l'apôtre Paul, qui sont les grands personnages, je peux dire, de ce petit roman de la première Église, c'est très bien que l'apôtre Pierre et l'apôtre Paul ont été martyrisés, puisque on a encore leurs reliques dans la grande ville éternelle de Rome. Voilà. Donc, et alors ça, donc, je vous dis un peu... Lisez, c'est quand même très très intéressant, ce chapitre. Il dit que l'objet de cet enseignement, c'est avant tout la proclamation du message de salut. Jésus, Messie et Fils de Dieu, comble l'attente d'Israël. Sa mort et sa résurrection accomplissent les Écritures. Il faut se convertir et croire en lui pour recevoir l'Esprit promis et échapper au jugement. Donc ça va aussi, il y a une sorte de catéchèse élémentaire qui veut conduire les hommes à la foi et qui est complétée après le baptême par un enseignement plus approfondi auquel les premiers chrétiens se montrent d'ailleurs tout à fait assidus, comme le dit le livre des Actes, chapitre 2, verset 42. Et puis, il y a une réaction au kérigme, l'étonnement, l'émerveillement, la réaction... l'hostilité au kérigme, donc c'est lié au martyr dont je parlais à l'instant, mais cette hostilité et même le fait qu'on massacre très 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 tôt les personnes qui sont porteuses de ce message, ces héros, ce sont des héros assassinés. Voilà, c'est un beau titre, c'est un petit un peu romanesque, un héros assassiné. Il y a le cheval évanoui de François Sagan, et puis il y a le héros assassiné. C'est un nouveau roman qui n'a pas été écrit, mais qu'on pourrait écrire si on veut, et qui est en fait la condition chrétienne. La condition chrétienne est celle de héros, mais héros H-E-R-A-U-T, héros assassiné, dénoncé, accusé, et finalement exécuté. C'est-à-dire le Christ lui-même. Le Christ, on revient finalement à l'expérience, si je peux dire, kérigmatique du Christ lui-même, héros du Père et héros exécuté, assassiné, je ne sais pas si l'expression est très bonne, mais oui, exécuté quand même, hein. Jugé, condamné et exécuté. C'est-à-dire qu'il y a aussi un rapport entre la parole et le sang. C'est pour ça que la communion au corps et au sang du Christ, il y a un rapport avec le sang. Le sang est porteur. Ça, c'est très très beau, c'est très juif de dire ça. Vous savez que notre mentalité sémitique, le sang porte l'âme. Le sang porte n'est pas un élément, purement matériel, en quelque sorte. Il est porteur de la conscience, de l'âme et de la mémoire de l'être humain. C'est pour ça qu'on ne verse pas le sang, et c'est pour ça que quand on a versé le sang, on est impur. C'est des raisons très 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 profondes et très très intéressantes, très sages. Donc le sang des martyrs continue à parler. Je ne sais pas comment vous dire, un pays comme la France ou des pays comme tous ces pays qui ont été évangélisés très très tôt dans l'histoire, comme la France, comme la Géorgie, comme la Grèce aussi, et ce sont des pays où le sang des martyrs parle. Hein, et c'est assez intéressant. Ils continuent à être porteurs du message. Et pas seulement le sang des martyrs, mais les reliques des martyrs aussi. C'est pour ça que très très tôt, toujours, on a vénéré les reliques des chrétiens, on les a portées en procession, on les a embrassées, on les a apposées sur les blessures des malades, on les a mis même dans les icônes, et on les met dans ce qu'on appelle le corporal, ou l'antimus, qui est sur l'autel et sur lequel on célèbre. On a toujours célébré sur les martyrs, si je peux dire, sur le sang ou sur le corps ou les ossements des martyrs. Donc ça, ce sont des éléments extrêmement profonds et qui se trouvent dans les actes des apôtres et toute la profondeur de la notion de kérigme dans notre Église. Et qui, j'insiste beaucoup là-dessus parce que c'est là-bas, c'est le fondement, et ça permet de comprendre aussi l'importance de ce mot chez les pères, ensuite chez les pères capodossiens, que j'avais préparé bien sûr aussi. Voilà, donc vous lirez ça éventuellement si vous pouvez. C'est quand même très intéressant. Et puis, page 413, toujours dans le VTB, page 413, il est question du lien étroit entre la notion de kérigme et l'évangile lui-même avec un grand E. C'est assez intéressant. Le kérigme, c'est pas seulement l'annonce de l'évangile, mais c'est l'évangile. L'évangile est le kérigme. Hein, donc, ça, c'est aussi cette fameuse figure de style de métonymie, je vous disais tout à l'heure, c'est qu'on. On rapporte le sens à une réalité directement proche. Donc le mot kérigme finit par désigner son propre contenu, ou son propre sujet, ou sa propre raison d'être. Donc le kérigme, c'est l'évangile lui-même, page 413. Voilà, c'est vite lu. Il dit « Jésus ressuscité prescrit à ses apôtres d'aller par le monde entier proclamer l'évangile à toute la création. » Ça, c'est pas dans Matthieu, c'est dans Marc, ça. C'est dans Marc 16. Intéressant, parce que ça, ce n'est pas l'évangile qu'on lit au baptême, parce qu'il ne parle pas du baptême à ce moment-là, mais c'est le même contenu de ce verset de l'apôtre Matthieu que j'ai cité tout à l'heure. L'évangile, c'est intéressant, d'ailleurs, c'est pas seulement l'évangile à toutes les nations, mais c'est l'évangile à toute la création dans saint Marc, ce qui donne au kérigme une dimension cosmique, vous voyez. C'est-à-dire qu'on peut considérer que ça me refait penser à Arthur Rimbaud, et qui annonce, qui se lève comme ça le matin et qui annonce le jour, l'aube, aux créatures. Justement, il n'y a personne en haut, mais il n'y a aucun être humain. Mais il dit, c'est très beau, il dit, les pierreries regardèrent, les fleurs, une fleur me dit son nom, etc. C'est admirablement écrit. Et après ça, à la fin du poème, il essaye d'étreindre cette aube, l'insaisissable aube, il essaie de la saisir, mais elle est insaisissable, elle lui échappe, etc. Il la poursuit, c'est admirable. Il faut lire Rimbaud. Ouais. Donc c'était pour illustrer la dimension cosmique du kérigme. Il y avait des saints à notre époque qui au moment de Pâques allaient chanter les chants de la résurrection dans la nature, au bord de la mer, annoncer la résurrection à la mer, annoncer la résurrection aux forêts, annoncer la résurrection À la création, oui. Donc ça, c'est très très beau, c'est très profond. Et c'est ça, vous voyez, il y a quelque chose qui est prophétique, mais au sens le plus profond du terme. Vous voyez, c'est même pas un problème de doctrine. Vous voyez, c'est annoncer des faits qui peuvent concerner les créatures elles-mêmes. La résurrection, ça intéresse aussi les oiseaux, les plantes, les chenilles, les pierres. Par exemple, il est bon de rappeler quand même que quand le Christ est mort au Golgotha, les pierres se fendirent de douleur. Donc c'est-à-dire qu'il y a un impact. C'est très intéressant du point de vue cosmologique. Hein. C'est pas de la légende, c'est pas de la littérature, l'Évangile. Hein. Ce sont des faits extraordinairement intéressants. L'impact cosmique de la mort-résurrection, parce qu'il n'y a pas la mort d'abord et la résurrection après, c'est des faits de séisme. La résurrection s'est faite. Et ce séisme donc affecte même les créatures les plus humbles, parce que les cailloux, si vous voulez, c'est pas des créatures qui parlent beaucoup a priori. Hein. Quoique de ces pierres-là, Dieu peut faire des fils d'Abraham, comme dit le Christ ailleurs. Voilà, c'était cette dimension-là qu'on trouve aussi dans le livre des Actes. Le livre des Actes décrit, c'est vraiment. Donc, peut-être que quelquefois vous me demandez qu'est-ce qu'on peut lire, donnez-nous une bibliographie. Écoutez-moi, la bibliographie que je vais vous donner pour ce cours, en plus du VTB admirable que je vous ai montré, la bibliographie, c'est, on va dire, l'Évangile. C'est pas nouveau, mais c'est nouveau. Toujours nouveau. C'est pour ça qu'on l'appelle le Nouveau Testament, je pense. C'est pas pour faire injure à la Bible juive, mais parce qu'il est toujours nouveau. Et alors, c'était une histoire très drôle qui est arrivée, je veux dire que c'est vrai. Nous vivons à une époque où les gens sont très très ignorants. Et c'est pas grave, mais enfin, c'est comme ça. Et alors, une fois, on parlait avec un garçon comme ça, qui ne savait rien du tout, le genre de gens qui vous disent « C'est qui Jésus ?» Oui, c'est très fréquent. Hein. Et alors, quelqu'un a employé l'expression Nouveau Testament. Et alors ce garçon a dit, ah bon, parce qu'il y en a un nouveau. Pensant qu'on avait fait une nouvelle édition. Mais ça m'avait fait rire, parce que, vous savez, il ne faut jamais perdre une occasion de sourire et de rire. Il y a des choses qui sont drôles, que ce n'est pas méchant, c'est agréable. Mais c'était intéressant, parce qu'il y a quelque chose qui est toujours nouveau, en fait, dans l'Évangile. Donc, en bibliographie, je vous propose quand même l'Évangile, si vous n'ennuyez pas. Et quelqu'un qui m'avait dit aussi une fois, c'était dans une paroisse, une personne qui me disait, ah voilà, père, dis-moi, je voudrais bien, voilà, c'est le carême, je sais pas, bon, qu'est-ce que je pourrais lire? Ah, je lui dis, l'Évangile, parce que j'ai pas beaucoup d'idées, je m'en pardon. Et cette dame me dit, mais je l'ai déjà lu. Bon, relis-le. Genre, si j'avais parlé d'un polar, ou n'importe quoi, elle m'aurait dit, je l'ai déjà lu. Oui, c'est... Bon, bah, donc, si vous l'avez déjà lu, relisez-le. Et si vous n'avez pas lu, même si vous avez déjà lu les Actes des Apôtres, je vous le donne vraiment comme bibliographie aussi. Les Actes des Apôtres, c'est vraiment... Bon, c'est très, très, très amusant à lire, c'est passionnant, c'est réel, c'est très bien écrit, très, très bien écrit, et c'est très, très précis. Et le contenu principal de l'Acte des Apôtres, c'est quand même ça. C'est le texte le plus kérigmatique que nous ayons, au fond. Beaucoup plus même que les textes du Saint-Évangile, qui le sont. Mais dans la structure du point de vue littéraire, si vous voulez, du point de vue de la structure du récit, des événements qui sont le côté romanesque, si je peux dire, des Actes des Apôtres, alors ça rapporte vraiment, vraiment à la définition de kérigme. Si on veut savoir ce que c'est que le kérigme, ben on lit les Actes des Apôtres, c'est pas plus compliqué, vous voyez. Voilà. Et puis, une dernière référence dans le VTB, c'est page 1006, alors on arrive vraiment beaucoup plus loin. 1006, où il est question de la notion de prédication, et lui dit, voilà, le kérigme, ça consiste à prêcher. Donc c'est vraiment la prédication. Vous avez proclamation, vous avez annonce, vous avez convocation, tous ces mots, tous ces concepts, ce champ lexical, comme on dit en cours de littérature, mais dans le champ lexical, il faut ajouter le verbe prêcher. Et qui se rapporte au verbe que je vous avais donné, kériso, qui veut dire dans le grec classique être crieur public, qui veut dire annoncer, convoquer une assemblée, proclamer, demander, ordonner, etc. Je vous avais donné ce verbe grec. Kériso, c'est prêcher. Prêcher, Donc, on va voir ce qu'ils nous disent pour nous aider à dire des choses intelligentes. Un même mot. Ah oui, c'est ça, c'est intéressant ça. Un même mot, disent-ils, enfin, dit notre écrivain du VTB, un même mot inaugure la prédication de Jésus et celle de son précurseur et couronne celle des premiers sermons apostoliques. Repentez-vous, ou convertissez-vous, metaniete. Metaniete. Oti engikis, ine vesti, ibasilia tu feu. Alors ça, c'est de caractère kérigmatique. Vous voyez, c'est intéressant parce que ce n'est pas, il n'annonce pas un événement, il n'annonce pas un fait, etc. C'est un appel. C'est le kérigme comme, oui, comme appel qui suscite une action, un comportement, là qui est pas un comportement extérieur, clairement, mais un comportement de retournement. Parce que c'est comme étant nia, ça veut dire le retournement de l'esprit. Retournez-vous. Repentez-vous, pour très bien que c'est un sens un peu moral en français. Convertissez-vous, c'est déjà beaucoup plus intéressant, parce qu'il y a l'idée quand même de retournement. Mais retournez-vous, je trouve que ce serait peut-être pas mal si on avait le courage de retourner votre mentalité, retourner votre esprit. Bon, et alors ça, donc, c'est du caractère kérigmatique. Non. Et alors donc, il est très intéressant, le commentaire de notre écrivain est très intéressant, il dit « La vérité qui a été annoncée n'a donc rien à voir avec une théorie » qu'on est libre d'admettre. Elle requiert de l'auditeur un engagement, car selon leur sens biblique, parole et vérité ont valeur de vie. Toute prédication qui ne débouche pas sur un appel à la conversion risque de cesser d'être évangile pour devenir conférence. Alors ça, c'est très intéressant, parce que c'est le statut de la théologie qui est derrière ça. Est-ce qu'une théologie, est-ce que c'est simplement une conférence que je viens de faire là maladroitement, ou est-ce que c'est une prédication qui appelle un changement, à une mutation, voilà, j'ai trouvé le mot qui me plaît, à une mutation de l'être, de l'être humain. Donc, vous voyez, c'est très très fort, mais ça veut dire que le kérigme et c'est pour ça que j'ai fait plusieurs j'ai balbutié plusieurs fois, comme vous avez remarqué, plusieurs fois j'ai fait employer charismatique au lieu de kérigmatique, parce qu'effectivement, l'idée de charisme est là. C'est-à-dire l'idée de grâce, de puissance prophétique. Ce matin, j'étais la paroisse de notre paroisse roumaine de Bruxelles, et on a lu l'évangile pour la fête de Saint-Nicolas. Or, justement, dans cet évangile-là, il est question de la puissance. L'évangile disait, les gens s'approchaient du Christ parce que de lui se dégageait une puissance extraordinaire. Oui. Donc le kérigme, c'est aussi c'est une sorte de théophanie, une manifestation de la puissance, des énergies divines qui sont pas seulement dans les mots, pas seulement dans les actes, mais dans les personnes. C'est intéressant parce qu'on lit cet évangile-là pour un grand saint qui est Saint-Nicolas. Ça veut dire que les saints, tous ceux qui sont agréables à Dieu, ont cette même caractéristique, parce qu'ils sont greffés sur le Christ, qu'ils sont des membres du Christ. Et en tant que membres du corps du Christ, ils ont les caractéristiques du corps. C'est pas extrêmement étonnant, c'est normal au fond. C'est la logique même du baptême. Et donc, ils ont aussi ce dégagement d'énergie, cette irradiation dont parle aussi Père Stanislaus dans sa dogmatique, justement. Il dit que le Christ irradie. À partir de son propre corps, il irradie l'Église tout entière et le monde entier. Mais les saints irradient. Donc l'activité kérigmatique des chrétiens dans l'Église, des saints, des apôtres, donc du Christ lui-même, hein, est une activité irradiante. Et je dirais aussi radieuse pour savourer les mots. C'est quand même très beau le mot radieux. Radieux, c'est la même famille que radiation, irradier. Il y a une idée de dégagement d'énergie, de dégagement de chaleur, de dégagement de lumière, qui se rapporte dans la théologie orthodoxe à notre connaissance des énergies et divines et humaines. Hein, parce que vous savez que nous savons par l'enseignement des Saints-Pères, que Saint Maxime le Confesseur surtout, que les énergies sont doubles. Les énergies dans le Christ, hein, il y a deux registre d'énergie, et Saint-Maxime le Confesseur a donné sa vie quand même pour ça aussi. Il n'y a pas seulement deux volontés, il n'y a pas seulement deux libertés unies, mais il y a aussi deux registres d'énergie C'est ce qu'on appelle le dio-énergisme. Et c'est les énergies incréées et les énergies créées, et elles se conjuguent et elles coopèrent, ça veut dire elles œuvrent ensemble. Et surtout, dit Saint Maxime, les énergies divines activent les énergies créées. Ce qui est très intéressant. Et bien, dans le phénomène charismatique, oui, je bute encore sur les mots, ce qui est humain, c'est-à-dire la bonne volonté d'être disciple du Christ, si vous voulez, bien c'est magnifié, c'est dilaté par les énergies divines que communique le Saint-Esprit. C'est pour ça que pas seulement les apôtres, ils ont disparu quand ils ont été morts, il n'y avait plus eu d'apôtres, c'est terminé. Hein. Après ça, ce sont des évêques, des saints, le saint peuple de Dieu, etc. Le ministère apostolique en tant que tel a disparu. Je tiens à le dire aussi, parce que c'est extrêmement important, hein, le ministère des 12 apôtres et du 13e qu'est l'apôtre Paul. C'est un ministère qui a eu une longévité très très courte dans l'histoire, mais qui a été remarquable. Quand on voit la vie des uns et des autres, on connaît beaucoup la vie de l'apôtre Paul, évidemment, mais quelle énergie! Mais infatigable. C'est pour ça qu'une biographie de l'apôtre Paul doit montrer ça, doit montrer le caractère absolument miraculeux de ce type d'existence. Aucun être humain normal, si je peux dire, moyen, vraiment, ne peut faire ça sans mourir exténué au bout de, je sais pas, de 15 jours. Vous voyez, c'est quelque chose de miraculeux dans l'existence même de l'activité apostolique. Et on le voit, c'est très net chez l'apôtre Pierre, qui était pas, au fond, n'était pas très bon, n'était pas très doué quand même. Et puis à partir de la Pentecôte, on a ces deux discours et demi de l'apôtre Paul dans les actes des apôtres, qui sont fantastiques. Brusquement, il parle comme un surdoué, lui qui n'était pas un sous-doué, si vous voulez, mais enfin bon, l'apôtre Pierre, c'est un monsieur très, très, voilà, c'est monsieur tout le monde, d'une certaine façon, oui. Et bien, c'est plus du tout monsieur tout le monde après la Pentecôte. Hein. Et donc ça, c'est assez important, ça, la dimension, on revient un peu à la dimension pneumatologique de du kérigme. 1006. Oui, alors c'est intéressant parce qu'il dit aussi que les apôtres, là il y a plein de messages qui arrivent, j'arrive pas à les prendre, j'ai bien du mal à avancer mon programme. Il y a Père Yussi en Istia, bonsoir. Et puis Cécile de l'Angle, encore un qui me dit que j'aime beaucoup Saint-Ambroise, donc la pub pour Saint-Ambroise a bien marché. Voilà. Oui, ils disent ici que bon, la prédication exige une conversion, ça on l'a dit, mais la conversion, si vous voulez, ce n'est pas moral. Hein. Le christianisme, ce n'est pas une morale, ça n'a aucun intérêt, ça. Le christianisme, c'est un événement charismatique fantastique. Et la conversion est un phénomène qui ne peut être réel que par l'action du Saint-Esprit. Mais ce n'est pas le kérigme, ce n'est pas que cela, ni les évangélistes, et plus particulièrement Matthieu, Saint Matthieu, on voulait montrer comment Jésus a, durant sa vie terrestre, inauguré la prédication apostolique. « Le royaume des cieux est tout proche, proclame Jésus à la suite du précurseur. » Donc ça aussi, ça fait partie du contenu du kérigme. L'autre contenu, c'était « Convertissez-vous », d'accord ? Mais là, le royaume, la proximité du royaume, l'annonce du royaume, ça c'est finalement le contenu peut-être principal du kérigme du Christ, qui était déjà, comme il le dit ici très justement, le kérigme, c'est-à-dire l'annonce du précurseur. Alors ça c'est un paragraphe très intéressant à développer. Le charisme héraldique, kérigmatique du saint prophète et précurseur le Baptiste Jean. Il est vraiment vous savez qu'il y a une icône très importante, l'iconographie. Je suis en tort parce que je ne me réfère pas assez à l'iconographie qui atteste continuellement et le dogme et le kérigme de notre Église. Mais donc il y a une des icônes qu'on a du précurseur est une icône sur laquelle il est montré portant des ailes et il est de face, alors que dans beaucoup d'icônes il est pas de profil mais de trois quarts avec sa tête qui est dans un plat parce que ça c'est la traduction du récit évangélique. Mais donc là c'est une icône dans laquelle le précurseur, il est de face, il nous regarde et il porte deux grandes ailes. Donc c'est assez curieux. Alors quel est le commentaire de cette icône? C'est qu'effectivement il y a dans le précurseur un charisme angélique. Et vous savez que le mot angelos plutôt, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire le messager justement. Donc l'ange est le messager de Dieu, l'ange est le héros de Dieu. Ça y est, on en parle des anges, on en parle quand même. Bon. Mais pourquoi Saint Jean-Baptiste? Parce qu'on une tradition dit que le précurseur est celui qui a été, étant mort avant le Christ, puisqu'il a été assassiné, alors pour le coup, vraiment assassiné dans sa prison de manière absolument misérable, minable, il est descendu aux enfers avant le Christ. Donc il est celui qui annonce, c'est pour ça qu'il porte des ailes, il est l'ange de la résurrection, le premier ange de la résurrection qui précède, et qui est donc le précurseur du Christ aux enfers. Ça c'est admirable ça. Donc, mais il était le précurseur du Christ, vous savez très bien, étant son cousin, d'accord, mais plus vieux de lui que lui, qu'est-ce qu'il avait? Un an de plus, c'est ça, ou 9 mois de plus, ça ne fait pas beaucoup, un petit peu plus âgé, bon. Donc, la prédication de Saint-Baptiste.
6 mois,
comment?
6 mois, puisqu'il est déjà.
Oui, c'est ça.
Il est dans la visite de Marie-Élisabeth.
La visitation.
Voilà, donc, très peu. Et donc, vous savez, donc, donc, sa prédication a été très, très, très importante, qu'elle a préparée. Ça. Donc, il y a un lien entre le kérigme du Christ et le kérigme du précurseur. Et en fait, le contenu en elle-même, c'est d'une part. Convertissez-vous et d'autre part l'annonce de la proximité du royaume. Voilà, donc vous voyez, ce serait intéressant pour vous, si vous pouvez, quand vous voulez relire l'évangile selon saint Matthieu, par exemple, de le lire avec cet esprit-là. Essayez de relire, par exemple, d'ici Noël, de relire un des 4 évangiles en entier, avec cette grille de lecture-là, essayez de le lire en essayant de voir tout ce qui est justement de caractère kérigmatique dans l'évangile. Prenez saint Matthieu, par exemple, puisqu'il nous le suggère ici. Vous voyez? Et en écho, les disciples annonce le même fait, les prophéties sont accomplies. Et Jean est, bien sûr, dans Matthieu 3:3, Jean est la voix qui crie dans le désert, selon le prophète Isaïe. Alors, là aussi, il y a des commentaires extraordinairement intéressants à faire, là. Est-ce que c'est pas la voix qui crie dans le désert? D'un point de vue littéraire, si vous voulez, c'est ce qu'on appelle une périphrase. C'est-à-dire qu'au lieu de dire héros, on dit celui qui fait telle chose. Et la voix qui crie dans le désert, c'est une périphrase pour héros. Hein, pas compliqué. Et ce qui est le plus intéressant, c'est que l'évangéliste le rapporte à la tradition prophétique. Donc ça confirme un peu ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que la manifestation de l'activité kérigmatique, elle se trouve chez les anciens prophètes, les anciens prophètes du peuple d'Israël. Voilà, donc vous allez voir ça, hein, donc c'est vraiment très important. Et surtout, par exemple, en Saint-Luc, ici, je ne résiste pas quand même à la joie de vous lire ça, le fait que Jésus se présente lui-même comme le serviteur qui évangélise. C'est dans Luc qu'il dit « Aujourd'hui, vous savez, il était dans la synagogue, je pense, la synagogue de Capharnaüm, d'ailleurs. Il s'est assis, il a ouvert la Torah, il a lu, et il a lu le passage d'Isaïe qui dit « L'Esprit est sur moi et m'a annoncé la bonne nouvelle aux pauvres, etc. » Et il dit « Aujourd'hui, c'est accompli. Aujourd'hui, s'accomplit à cette parole. S'accomplit cette parole qui vient de retentir à vos oreilles. » Donc le kérigme ici consiste à annoncer que ce que les prophètes proclamaient est arrivé. Oui. Alors, on doit s'arrêter là, je pense. Parce qu'il est 10 heures, on a dit qu'on concluait à 10 heures. Hein. Donc, moi, ce qu'on va faire, on va faire quand même avoir une activité en plusieurs temps, je crois que c'est quand même intéressant. Et donc aujourd'hui, j'ai présenté les sources du mot kérigme, j'ai montré sa place dans l'Antiquité grecque, un très bon instrument. J'ai montré quand même son application biblique. J'ai essayé de montrer les aspects intéressants quand même du concept. Et la prochaine fois, eh bien, on va quand même reprendre le même thème. Donc, ce sera kérigme 2. comme il y a l'âge de glace 1, l'âge de glace 2, l'âge de 3. Ça va être kérigme 2. Et ce sera le kérigme vraiment chez les pères et particulièrement chez Saint Basile, qui est celui qui a, dans le traité du Saint-Esprit, en particulier, développé beaucoup cette notion-là. D'une manière, vous allez voir, c'est très, très, c'est très intéressant et ça apporte un éclairage absolument nouveau par rapport à ce qu'on dit aujourd'hui. Donc je vous mets l'eau à la bouche, vous allez attendre avec impatience la prochaine séance qui sera donc au mois de, ben, au mois de janvier, je sais pas très bien quand, on en retrouve à la date. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre soutien et de votre présence, de votre enthousiasme, j'espère.
Comment ? Le 10 janvier.
Donc voilà, prochaine séance, donc le 10 janvier. Oui, parce que la première semaine, la deuxième semaine, oui, la première semaine, de toute façon, c'est la fête du baptême, etc. Donc, ça, c'est le 10 janvier, d'accord. Voilà, merci Père Julian, surtout. Hein. Sans Père Julian, elle ne ferait rien du tout. Oui.
J'aurais une question. Y a-t-il aussi une tension eschatologique dans l'activité kérigmatique?
Alors, donc,
donc, quelque chose qui renvoie.
Oui.
Au royaume,
oui,
à l'attente,
voilà.
Intention du royaume, en fait,
voilà, donc
nous sommes tendus vers
là. Si, très, très intéressant ce que vous dites, je pense que tout le monde a entendu votre intervention, c'est que notre ami, quel est votre prénom, rappelez-moi, pardon.
Georgiana.
De Saint-Georges.
Ah oui, Georgiana, oui, voilà. Donc Georgiana dit quelque chose qui est très vrai et très intéressant, qu'en fait il y a une dimension eschatologique. Dans le kérigme, on l'a dit un petit peu déjà, moi je crois qu'il faut souligner, ça faut magnifier cet aspect-là, c'est que toute activité kérigmatique, non seulement annonce ce qui est arrivé, mais enfin est tournée vers le second avènement, la venue en gloire du Christ, c'est-à-dire vraiment l'accomplissement de la volonté divine, elle se fait en plusieurs temps. Il y a eu des formes d'accomplissement, même avant l'incarnation, des formes d'accomplissement partiel, mais quand même des formes d'accomplissement. Alors l'incarnation, c'est vraiment l'accomplissement spectaculaire de la parole, de la tradition prophétique. Bon, ça, je pense que c'est quand même clair pour tout le monde, j'espère. Bon, et puis c'est accompli, puisque le Christ dit lui-même, il dit « tout est accompli », je crois qu'il dit ça sur la croix. Donc il y a quand même un accomplissement, et le kérigme dit ça, il dit « c'est accompli ». Et en même temps, il y a encore un accomplissement, l'accomplissement de l'accomplissement, qui est la fin des temps, la venue en gloire, la résurrection universelle, le jugement universel, et finalement, au-delà, si je peux dire, parce que là on est pour une vie spatio-temporelle, dans un registre qui nous échappe quand même, hein, on va dire quand même au-delà, parce qu'il veut dire quelque chose, au-delà, eh bien, il y a la jouissance et la béatitude éternelle des saints unis au Père dans le Christ par l'Esprit. Alors ça, c'est le but de la vie, en fait. C'est vrai. Il y a un oméga, hein, le kérigme, il pointe vers l'oméga de tout, l'oméga de toute chose. Qui est le Christ lui-même, à nouveau, d'ailleurs. Parce que vous savez que dans la tradition latine, gallo-romaine, d'ailleurs, reprise par la tradition romaine, mais qui est, je crois, profondément gallo-romaine, on a beaucoup utilisé liturgiquement la citation de l'Apocalypse. Et c'est dans l'Apocalypse qu'il y a cette expression-là, l'alpha et l'oméga, pour désigner le Christ. Donc ça, c'est effectivement... Il faudrait par là, je n'ai pas du tout cité l'Apocalypse ce soir, c'est vrai, il faudrait voir dans l'Apocalypse comment le kérigme s'applique au registre apocalyptique, c'est-à-dire eschatologique. Oui, ça c'est un beau sujet de devoir, ça. Georgiana, vous allez nous faire ça. Merci. Merci beaucoup.